Le voyage à Samoa, chapitre 5, deuxième partie. À bord du Polynésien, océan Indien, à 3 degrés au-dessous de l'équateur. 21 novembre 1901. Enfin, je puis causer un peu avec toi. Le Polynésien était arrivé à Colombo lundi 18 à 2h30 de l'après-midi. Il ne repartait que mardi 19 à 9h du matin et j'ai couché au Grand Hôtel Oriental. Vers minuit, par la grande porte-fenêtre qui ouvre sur la véranda, se précipite un torrent de pluie. La chambre entière est recouverte d'un pouce d'eau. Malle et valise nagent presque, et le pauvre singe de Ting est demi-noyé. Puis l'ouragan se lève, mais je me rendors malgré la ruée de vent qui soulève ma moustiquaire. L'aube est affreusement noire. Même les corbeaux croassent piteusement, tandis que les rafales déchirent les larges feuilles du grand bananier qui s'éploie juste sous notre véranda. Comment arriverons-nous à bord sous ce déluge et dans la tempête? À 6h, nous étions debout, et je fais descendre les bagages au plus vite. Il y a quelques secondes d'accalmie. Le bon vieux Singalais, Andrew, le boat peon de l'hôtel, nous a trouvé une barque qui n'est pas, Dieu merci, une pirogue à balancier. Et le vent s'est tu, mais il couve un déchaînement. « It's the breaking of the monsoon, » me dit Andrew, « et on ne peut prévoir le temps à un quart d'heure près. » Hâtons-nous, nous dansons sur notre petite embarcation à travers la rade. Contre la jetée, sous la mousson du nord-est, les gerbes d'écume fusent en l'air. Le Polynésien est mouillé tout près de l'entrée, loin des autres vaisseaux. Les corbeaux tournoient sur nous en croissant. Le ciel est d'une noirceur livide, couleur d'un nègre qui pâlit. Les gabarres à charbon sont encore contre le bord. Il y a eu une pluie si violente que la prise a dû être interrompue dans la nuit. Nous voici à bord, et moi, aux prises avec le commissaire, personnage sec et guindé, qui ne veut pas recevoir Ting, malgré l'engagement que m'a fait signer à Colombo l'agent général, Monsieur Labussière. Il faudra verser 100 livres à Sydney pour débarquer. Je ne les ai pas. Comment ferais-je? J'irai trouver Cook, mais je crains bien de t'envoyer un télégramme. Ce n'est qu'un dépôt, et il suffira que M avertisse le Crédit Lyonnais. Enfin, à la grâce de Dieu. Quand tu liras ceci, tu auras peut-être reçu la malencontreuse dépêche, et tu comprendras la situation dans laquelle je vais me trouver. Vendredi 22 novembre. Enfin, les choses s'arrangent et on me donne une bonne cabine à 3 où je serai seule jusqu'à Sydney. Il n'y a que 26 passagers de première. Mais quelle matinée! Un ciel lourdement gris, l'eau verte et sale de l'océan Indien troublé, le disque chevelu des palmiers inclinés, tremblant et pleurant sous le vent et la pluie, les pirogues à balancier, bercées sur une vilaine houle, les maisons rouges de Colombo à travers un brouillard d'eau, les corbeaux inquiets, les gerbes d'écume fusant le long de la jetée, et surtout, ah surtout, des passagers tristes et sales, errant sur un pont souillé de charbon, parmi les derniers joailliers qui nous offraient au bruit du treuil des œils de chat et des pierres de lune. Ce départ morne m'avait mis la mort dans l'âme. Tout le jour, nous avons clapoté dans une houle d'un vert morbide et les nuages s'amassaient plus noirs. J'avais le cœur malade et n'ai pu écrire. Enfin, j'ai trouvé ici un homme charmant et instruit, Monsieur Bourges, officier des messageries, qui va prendre le commandement du paquebot faisant le service entre Sydney et Nouméa. Un jeune et riche Australien, Baldock, de Melbourne, qui vend à Bombay des chevaux d'Australie. Sa femme, jolie et coquette. Le comte d'Outremont, jeune Belge riche, qui a fait le voyage que j'entreprends et qui retourne en Nouvelle-Zélande. Monsieur Heaton, membre du Parlement anglais pour Canterbury, et son collègue pour l'Irlande, O'Brien. Ajoute une actrice célèbre australienne sur le retour, Nellie S., avec son amant directeur, M. Je n'ai pas parlé à ces trois derniers. Le 20, à 7 heures du soir, nous avons passé la ligne. Chose étrange, la mer n'y est plus la même. Une heure avant d'arriver à l'équateur, une large bande noire cercle l'horizon. Des paquets de nuages défilent au ciel. Soudain, les lames s'épandent et une horrible giclée de pluie fine cingle le vaisseau. C'est le poteau noir. Nous quittons la mousson du nord-est pour avoir contre nous les vents alizés du sud-est. Maintenant, le ciel et l'eau ne sont plus les mêmes, ni l'air. À 3 degrés de latitude sud, le vent apporte de la fraîcheur, et plus nous avançons, plus le navire travaille contre le vent debout. La mer est comme la Méditerranée, saphir fluide, mais les lames s'élèvent régulières comme les vallonnements d'un pays de Blois ou de Touraine. Quand le vent fraîchit, la mer de saphir écume et se couronne de perles en soulevant notre coque monstrueuse d'un effort irrésistible. Samedi 23 novembre. Nous n'avons fait que 229 milles hier. Le vaisseau peine contre les alizés du sud-est et de nombreuses baleines se précipiteraient par les hublots à bâbord s'ils n'étaient soigneusement vissés. Heureusement, je suis à tribord et je peux avoir de l'air toute la nuit. Mais le vaisseau tangue et roule beaucoup, et, quoi qu'on fasse, on est envahi par la torpeur et le demi-sommeil. Il m'a fallu beaucoup de courage pour tracer ces quelques lignes. La mer déferle par grandes masses de saphir. Le ciel, toujours bleu-blanc dans son éclat matinal, qui dure jusqu'au soir. Les nuages bas, en flocons blancs épais, défilent à une grande vitesse, plus haut, moins vite, insensiblement très haut. C'est comme un cortège blanc, mauve et violet de l'horizon. Le soleil se couche sous une étroite tente de rouge et d'or. La lune est liquide et voilée. L'air doux est plus frais dans cet hémisphère austral à mesure que nous nous éloignons de l'équateur. Et demain, peut-être, nous aurons traversé les tropiques. Ici, nous entrons vraiment dans les mers du sud. Il ne se passe rien à bord. L'Anka, c'est le singe de Ting, est enfermé dans une cage à poulet. Il connaît son nom, qui est l'antique nom de Ceylan, et dévore bananes, oranges et biscuits. Il vous donne très gentiment la main à travers le treillage et vous serre avec ses petits doigts noirs. Cassim lui avait fabriqué une boîte verte à barreaux de bois pour le voyage en chemin de fer. Mais nous avons eu beaucoup de peine à empêcher Ting de couper la queue du pauvre Lanka juste au ras du dos. « Then he shall be just like a man !» disait Ting. Pendant que je t'écris, le vent du sud-est donne aux Polynésiens tanga et roulis combinés. C'est un mouvement redouté des marins eux-mêmes et qu'on appelle le coup de casserole. Monsieur Bourges, qui est un admirable homme de mer, m'a dit que je devais m'estimer bien heureux d'avoir vu l'horrible et sublime spectacle du coucher de soleil en rade de Djibouti. Il a passé 18 fois à Djibouti et ne l'a vu qu'une seule fois. Il m'a dit que de tout ce qu'il avait vu sur mer, c'est ce qu'il a vu de plus beau. Cependant, il paraît que la baie de Sydney, si nous y entrons le matin, ne le sait d'en beauté qu'à celle de Rio de Janeiro. Au moment où nous quittions Colombo, on m'a apporté à bord le numéro du Ceylon Observer, qui venait de paraître avec la carte du jeune F. Ce numéro contenait une interview de moi, très indiscrètement prise au courant d'une conversation et à mon insu. D'ailleurs, tout y est exact. Sauf que, pour mes péchés, je suis vraiment montée au Rock Temple de Dembulla et surtout que j'en suis redescendue. Hier, je venais de me coucher et d'éteindre à minuit lorsque je suis sortie de la première seconde de mon sommeil avec l'impression que l'hélice s'était tue et que le Polynésien avait stoppé. Aussitôt après, un tumulte de cris, de hurlements. Une voix de femme appelant au secours, une course éperdue à travers la batterie et dans les couloirs. Admire mon sang-froid, j'ai bien cru qu'il y avait un gros accident. Mais pour presser le bouton d'allumage, il faut se lever. Je ne l'ai pas fait. Renseignement pris ce matin, c'est un jeune Kanaka du Polynésien qui s'est introduit en rampant dans la cabine de deux jeunes filles en seconde pour les chatouiller. On l'a chassé par tout le bateau et finalement on l'a retrouvé blotti parmi les souillards de cuisine. Il a été mis au fer avec toutes les formes prescrites. Mais je crois qu'on fermera les yeux sur son équipée. Dimanche 24 novembre. Ce vent alisé du sud-est est très dur à supporter. Il énerve sans apporter de fraîcheur et soulève la mer d'une façon continue. Le soleil s'est couché hier dans un ciel gris sans fête de lumière. Toute la nuit et ce matin, le vent a fraîchi et les coups de casserole se succèdent sans interruption. Rien à y faire, c'est le temps de la saison. À cette heure, le vent cède un peu. La mer brise ses longues crêtes de saphir en gerbes de perles. Le ciel d'Orient est pur, clair, bleu pâle comme en France, le matin. Tout l'horizon blanc diaphane est encerclé de petits nuages d'un feu léger et doux, tandis que vers le couchant, le soleil rayonne blanc et fort. Nous sommes à 16 degrés au-dessous de l'équateur, et nous atteindrons bientôt la latitude du Cap, c'est-à-dire les climats tempérés, pour retourner ensuite vers l'été torride de Sydney. J'ai relu tout à l'heure tes lettres, et je vois que j'ai eu l'étourderie de ne pas te répondre au sujet de Roméo et Juliette. Oui, certes, je le traduirai avec Morand. J'entends dire autour de moi que nos lettres de Fremantle arriveront pour le jour de l'an. Novembre, lundi matin. Nous avons quitté les tropiques et l'Alizé du sud-est pour entrer dans l'océan austral. On l'éprouve fortement. Impossible de se tenir debout tant le vaisseau roule. Et je t'écris à un angle de 45 degrés, tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de la ligne de terre. Il y a 25 degrés, mais il fait froid et j'ai dû quitter mes vêtements blancs pour m'habiller de flanelle. Le ciel est gris pommelé, la houle énorme. C'est la région des vents variables et la mer ne fera que grossir sans doute au sud de l'Australie. The long swell of the Australian shore. Je saisis vite un instant pour t'écrire, parce que je ne sais pas si plus tard dans la journée la mer me permettra de le faire. Monsieur Heaton, Monsieur P. et auteur du Penny Post Law, oublient en ce moment ses constituants de Canterbury, car il est vautré en face de moi dans le fumoir, sur un canapé, dans une position peu respectable, et que le roulis suffit tout juste à excuser. Il ne songe même plus à m'imposer une partie de poker à un shilling de relance, d'où je me suis tiré jusqu'à présent sans perdre pied ni plume. Maintenant, d'ailleurs, que j'ai fait preuve de bonne volonté à cet égard, j'envoie son poker au diable. J'aime mieux regarder la mer. Cette mer est bien laide, et c'est la mer australe. Quelle désillusion! Elle est bleue sale et noire, et sa grande houle met partout des taches blanchâtres qui semblent ternes sous la tristesse du ciel. Novembre, mardi. Je m'étais trompée et nous ne traverserons le tropique que ce soir. C'est à l'écliptique que nous avons passé hier, où le soleil à midi est précisément à 90 degrés au-dessus de l'horizon. Mais la température a bien changé, et il m'a fallu une couverture cette nuit. La mer est très forte, quoiqu'il fasse beau temps. Le roulis est régulier et violent, l'eau toujours de saphir et d'écume. En réalité, cette eau n'est plus celle de l'océan Indien, mais la grosse houle vient de l'océan Austral qui baigne le cap Horn, le cap de l'Espérance, la pointe méridionale de la Tasmanie et qui s'étend jusqu'au pôle Sud. Nous devons arriver après-demain, jeudi matin, à Fremantle. Novembre, mercredi. Le roulis est de plus en plus fort, mais il fait très beau. Ce matin, le ciel est d'un bleu léger, le soleil radieux, le vent très frais, la grande houle bleue, opaque et blanche. De petits nuages noirs et feux courent le long de l'horizon. Hier, avant dîner, il y a eu un moment d'émotion. Après quelques battements de plus en plus faibles, l'hélice s'est arrêtée et le Polynésien a stoppé. Le silence semblait étrange et la houle faisait rouler le bateau bord sur bord. Heureusement, ce n'était qu'une clavette à remplacer. Mais cet espace énorme de Colombo à Fremantle est un désert. Nous n'avons pas rencontré un seul vaisseau. Et si l'hélice se brisait, nul recours qu'un gréage de voile qui ne suffirait pas à contrecarrer les courants. Or, on a constaté qu'au moyen de bouteilles lancées à la mer, que ces courants amèneraient un navire désemparé vers Madagascar ou dans le canal de Mozambique. Cela durerait 6 mois. L'expérience ne me tente pas. Nous allons arriver demain, et cette lettre devra être bientôt fermée. Le vrai problème de mon voyage va commencer à Sydney et sera en grande partie déterminé par les difficultés que va m'occasionner Ting. Je ne sais pas si l'Allemagne a pris les mêmes mesures prohibitives contre les Chinois, auquel cas le séjour de Samoa me serait interdit. Tout cela est encore dans la main des dieux. Je voulais fermer cette lettre plus tard, mais nous arriverons à Fremantle à l'aube et la houle grossit. J'ai peur de ne plus pouvoir rien ajouter. À bord du Polynésien, vendredi 29 novembre 1901. Voici une journée de sauté dans notre journal. Je n'ai pas pu écrire hier. Après une nuit d'affreux roulis de mercredi à jeudi, mon hublot était heurté régulièrement par un irrésistible marteau d'eau et le commandant était trempé par des paquets d'embrun sur la passerelle. Nous étions en vue de Fremantle hier matin à 7 heures. Après 9 jours de ciel et d'eau, l'aspect de la terre devrait réconforter. Mais je t'assure que l'impression de l'île aride et basse de Rottnest, par notre travers à tribord, n'est pas consolante. Une barre de dunes blanches surmontée d'un dos d'âne qui semble de lichen noir rongé et des blocs carrés qui sont des maisons de déportation. Et cet îlot désolé, battu par une mauvaise mer verte. Et le vent froid soufflant à travers un ciel clair. Voilà ma première impression de l'Australie. Grâce au pourparlers qu'entraîne la présence à bord d'un chargement de poudre pour la Nouvelle-Calédonie, on ne nous laisse entrer au port que vers midi. Une grande jetée non terminée, des quais avec des rails, de longs docks où circulent des wagons chargés, un wharf où les mâts succèdent aux mâts, comme à Rotterdam, un brise-lame encore en construction, de grands magasins, des stores, des usines, et par là-dessus un soleil aveuglant. Voilà le port nouveau de Fremantle qui dessert la capitale de West Australia, Perth, comme Saint-Nazaire dessert Nantes. Un inextricable lacis de rails court le long de la mer, sans barrière aucune. Il n'y a que les écriteaux qui portent « Look out for the train ». Là stationnent des trucks chargés de ballots de laine fraîchement étendus, d'un jaune gras et de saumon d'étain blanc. Sous la poussière, on aperçoit quelques bouquets de jeunes bambous et 2 ou 3 eucalyptus aux feuilles tordues et déjà flétries. Cependant, nous ne sommes qu'à la fin du mois de mai australien. Et le 27 novembre, ils avaient 90 degrés Fahrenheit. Avec le comte d'Outremont, je prends le train pour Perth. Les wagons sont pourvus de persiennes recouvertes d'un treillis de fil de fer très mince. La campagne est stérile, l'herbe rousse et brûlée. Partout du sable blanc et un peu plus loin des arbres tristes. Les stores longent les routes. Les maisons ont été rapidement élevées en bois. Ce ne sont que des hangars peints et des baraques à enseignes. L'horrible bungalow à colonnettes s'étale de place en place, toujours pareil à un autre bungalow, avec le même jardinet et les mêmes fleurs. Le soleil devient terrible. Voici Perth, fait de rues droites, voilée contre le ciel par un lacis de fils de télégraphe, de téléphones et de tramways à trolley, avec des stores tout le long, des maisons basses et peintes, oyster rooms, refreshment rooms, barber saloons, etc. Nous prenons un Hanson cab pour nous faire promener. Il y a ici un parc. Dieu, le parc de Perth est fait de quelques jeunes arbres à tuteurs, entourés de fleurs voyantes et multicolores, disposés en massif par le goût anglais le long d'une route d'argile rouge. Nous le traversons et voici un admirable spectacle, Swan's River. Figure-toi une rivière large comme un estuaire, avec des baies et des grèves, bleues ici, vertes là, avec ses fonds de sable jaunes et blanchâtres. Moutonnante sous le vent, s'ouvrant jusqu'à la moitié de l'horizon, et, le long de ses bords, des arbres de verdure noire, piqués dans leur masse par les toits des maisons. Tout Perth, maintenant, de loin, joliment coloré, est vu de haut. Le tour du ciel, cerclé de longues collines presque à niveau, barré d'une barre de brume bleue, sous un ciel délicieusement pur, comme d'azur fraîchement lavé, et ne mêlant pas son bleu à la nappe verte de Swan's River. Cette sorte d'estuaire descend des montagnes et n'a que peu de profondeur. Mais il couvre une contrée de son eau bleue et verte tachée de petites écumes. La route rougeâtre qui surplombe court entre des arbres qui sont peut-être des charmes, des sortes de cèdres, des eucalyptus. D'autres, des hibiscus, me dit-on, portent de grandes étoiles jaunes dirigées vers le ciel. D'autres, des brosses rondes, jaunâtres aussi, dressées comme des cierges. Mais l'herbe est triste et sèche, et çà et là des moignons d'arbres comme brûlés, les vieux troncs de ceux qui restent, ouverts et calcinés, attestent la force du soleil austral. Puis, au retour, la route s'incline vers la rive qu'elle longe. Une petite estacade de troncs rustiques, près de laquelle nagent des cygnes noirs à bec rouge, le col en S, parfaitement digne. Nous passons près d'une plantation de bananiers avec leurs feuilles déchiquetées, comme cisaillées par le vent. Mais ils semblent pauvres et rabougris après les bananiers de Ceylan. De retour en ville, nous allons boire avec notre cocher dans le meilleur pub. Ce meilleur n'est pas brillant. Les bouteilles suintent sur les étagères et les feuilles de papier à mouches suspendues le long des ficelles sont noires de mouches mortes. Flies, fleas and sands. Telle est la définition proverbiale de Perth selon le barman. Ensuite, nous allons manger des huîtres australiennes dans un oyster saloon. Papier à mouche encore, plafond bas et serviettes en papier. Les huîtres ont la forme des huîtres portugaises, mais ne sont pas plus grosses que des marraines. Elles sont très bonnes. On les envoie de Brisbane dans des parcs de séjour à Fremantle, d'où elles sont expédiées à Perth. Quant au Chablis australien, c'est un vin capiteux et sec, qui ressemble beaucoup au bon vin du Rhin. Le soir, nous revenons dîner à bord, au milieu d'un nuage de charbon, à travers lequel, soudain, se lèvent des rayons rouge-orange. Une lueur inquiétante fuse au-dessus des arbres noirs qui dominent le port. Et voici la lune jaune sombre, comme un fruit tropical irrésistiblement soulevé à travers des brumes de crêpe noire. Vénus scintille d'un éclat d'argent poli, et la mangue fulgurante qui monte toujours va pâlir graduellement et s'aplatir en médaille blanche comme de l'étain frotté. Samedi 30 novembre. Nous sommes repartis à 11 heures du soir, jeudi, dans le beau temps et la houle. C'est un passage redouté. Nous allons doubler le cap Lewin et l'océan austral n'y est pas clément. Roulis toute la nuit. Vendredi matin, le cap Lewin est en vue. Jamais côte ne m'a paru plus stérile. Jusqu'à King George Sound, c'est-à-dire pendant la journée entière, le Polynésien allongeait la côte australienne. D'abord des dunes blanches, livides, un peu pareilles à celles des Scoublac en Bretagne, mais dépouillées et arides, sauf des traînées de brousse noire. Puis la côte s'élève peu à peu, rocheuse et nue. Des îlots de rocs, comme des tours ou des pylônes, surgissent de la mer. Parfois, au haut d'une falaise, un bouquet de roches grises semble un dolmen. Contre ces rochers, la mer brise éternellement. Et, près d'un pylône détaché, les gerbes d'écume, comme suspendues dans l'air, ne retombent qu'à regret. La désolation de la rive australienne occidentale, battue par cette mer froide, est affreuse. Si on naufrageait au pied de ces escarpements, on serait perdu sans retour. Des rochers vers l'intérieur, c'est un désert morne où il n'y a même pas de sauvages. Le soir, une énorme lune jaune jetait un manteau doré sur la houle, et le phare d'Albany, vers minuit, trouait les ténèbres. Dimanche 1er décembre, jour de naissance de Ting. Pauvre garçon, je n'ai rien pu lui donner et j'en étais désolée. Enfin, j'ai trouvé chez le coiffeur du bord de petites bouées au nom du Polynésien qui sont disposées en façon de porte-montre. Le malheureux, que tant d'ennuis dont on le terrifie attendent en Australie, était si reconnaissant. Hier, la journée a été d'une beauté pure, inconnue dans ces parages. Dès le matin, l'air était tranchant et sec, le ciel clair. La mer s'étendait comme un lac ridé, sillonné par des courbes de niveau. Je ne puis trouver mieux pour décrire un spectacle d'une étrangeté géométrique. La houle soulève l'océan austral selon des courbes rythmiques que le vent ne gouverne pas. On voit à l'horizon les vallonnements de l'eau qui se découpent sur le ciel. Toute la surface liquide se soulève à des intervalles réguliers comme sur les miniatures du Moyen Âge. et ces vastes ondulations arrivent, profondes et fortes, depuis les banquises du pôle austral. Et, à l'arrière du Polynésien, une demi-douzaine d'albatros croisés sur la mer. Le vol de l'albatros est un planement plus rapide que la vitesse d'un train éclair. Il tourne autour du vaisseau, s'attarde et le rejoint sans effort. Une masse blanche, dont le bec semble blanc pendant le vol, avec deux immenses ailes chatoyantes et bigarrées, comme celles du papillon sphinx. Puis l'oiseau, posé sur la houle, semble un énorme canard blanc sur une mare claire. Dans l'après-midi, une petite avarie de machine a causé un stoppage. Aussitôt, le maître d'équipage et les hommes se ruaient à l'avant pour pêcher des albatros. On leur jette une corde mince avec un morceau de lard au bout. Ce n'est pas long. En moins de 10 minutes, trois énormes bêtes blanches jonchaient le pont. Par exemple, le numéro 2, tandis qu'on l'amenait sur la lisse, a renversé un homme d'un coup d'aile. Une fois sur le pont, l'albatros est impuissant. Il se dresse quelques secondes sur ses pattes palmées. Mais le corps est trop lourd et les ailes trop grandes. Il ne peut pas marcher. Le corps est d'une blancheur éclatante. Les ailes noires et blanches bigarrées. Parfois, le poitrail moucheté de gris. Le bec énorme, creux et crochu, et rose clair jusqu'à l'extrémité, de cornes blanches et terriblement tranchantes. L'albatros grogne et claque du bec, mais ne paraît pas très sauvage. Ceux-là regardaient tout autour d'eux avec curiosité, d'un œil vif et intelligent. Les Anglais du bord m'ont député au commandant pour demander qu'on les relâche. C'est une superstition, mais je n'ai rien obtenu. Nos matelots sont féroces. Ils vendent le poitrail blanc et les plumes à Sydney. Avec les pattes, ils font des blagues à tabac et des tuyaux de pipe avec les os des ailes. Le commandant n'a pas eu le courage d'intervenir. Le soir, les rides de l'océan austral s'étaient effacées. Le soleil s'est couché dans une grande brume d'or qui venait limiter, sur toute la portion de cercle occidentale de l'horizon, la nappe liquide d'un bleu pur. Les reflets jaunes se miraient sur la houle profondément bleue. Puis ce grand segment, en quelques secondes, s'est fait orangé, puis saumon fondu vers le haut du ciel, dans du vert clair noyé lui-même, dans une brume indigo, tandis que vers l'Orient, dans l'azur nocturne, Vénus seule rayonnait comme une goutte d'argent écrasée. Puis tout le bas du ciel s'est incendié d'un brûlement rouge sombre, et en quelques secondes tout s'est éteint. L'eau s'est faite morne et glauque, comme des yeux d'aveugle, tandis que le peuple des étoiles australes s'amassait au ciel. C'est un fouillis étincelant. La croix du sud, que je n'avais pu voir jusqu'ici à cause des nuages de nuit, se trouve à 22 degrés du pôle, et on la découvre à gauche de la ligne qui joint A et B de la lyre. C'est une croix renversée, faite ainsi. Et, comme tu pourras voir, il y a une petite étoile qui rompt la figure. Note, sur la lettre est la place des étoiles de cette constellation. Fin de la note. Mais seules les trois étoiles de droite sont assez brillantes, et il faut chercher la croix du sud pour la découvrir. Au zénith, deux grosses taches blanches marquent deux nébuleuses visibles seulement dans le ciel austral, et que les marins nomment Maurice et Bourbon. Vénus est splendide, Saturne et Mercure éclatants. Les étoiles nouvelles, la houle géométrique est lisse dans ses courbes, la désolation du rivage, le vol silencieux et rapide des albatros blancs au bec rose avec leurs ailes chamarrées, le vent glacial du sud, tout cela sent le désert du pôle austral qui envoie son souffle ténébreux jusqu'à nous. Ce n'est pas horrible comme les chatoiements sanglants et verts du soleil mourant sur les montagnes de houille et de pourpre violette à Djibouti. Mais de là monte une angoisse lente qui vient de l'extrémité du monde et qui serre le cœur. Ce matin, les grandes vagues concentriques sont jaunâtres et le ciel gris. Il s'est fendu une heure au nord pour montrer un long et étroit ventre de poisson bleu. Et les albatros volent toujours en cercle autour de nous. Lundi 2 décembre. Le roulis est de plus en plus fort et j'ai passé une partie de la nuit à glisser dans ma couchette. On ne peut marcher sur le pont qu'incliné comme un épi sous le vent. La mer est toujours gris-jaune et le ciel couvert et le vent froid. À l'arrière du Polynésien, les albatros continuent à croiser. Aujourd'hui, à midi, nous devrons être par le travers du Kangaroo Island et nous entrerons, je pense, dans la baie de Melbourne pendant la nuit de demain. Depuis le 23 novembre, où nous étions par le travers de l'île des Cocos, les noms accusent les découvertes récentes. Dampier, Fremantle, d'Entrecasteaux, Doubtful, Investigator Straits, jusqu'à cette île des kangourous que j'espère bien apercevoir. À bord, la vie est très monotone. Le gros H est arrivé à dégoûter tout le monde par sa prétention et son avidité au jeu. Nous avons essayé de le faire sauter au poker grâce à des Australiens embarqués à Fremantle, mais sans aucun succès. Seulement, je suis délivré du poker depuis, sans avoir perdu. C'est miraculeux. Même cela m'a payé mes cocktails. Les Australiens ont des jeux à eux. L'ocre, une sorte d'écarté. Le spoof, qui est un domino aux cartes. Le German whist, qui se joue à deux. Et le solo, qui est une modification du whist. En attendant, je voudrais être déjà à Samoa. Cependant, je veux entendre sur le sol australien le rire du Laughing Jackass, bien qu'on m'assure que les manifestations de la gaieté de l'honorable Judge Casey m'en donnent l'idée la plus parfaite. Voilà bien des sottises pour aujourd'hui, et cette lettre sera fermée demain. Mardi 3 décembre. Voici le jour où je vais fermer cette lettre. Nous arriverons à Melbourne trop tard dans la nuit pour que nous puissions débarquer. Mais le travail postal se fera à la première heure demain matin et j'aime mieux remettre ma lettre à bord. Il fait un temps radieux et froid. La mer lisse est toujours soulevée par cette longue ondulation qui vient du pôle. Nous avons horriblement roulé cette nuit, et en ce moment, le mouvement reprend de plus belle. Nous nous rapprochons maintenant de la côte après avoir suivi la corde de l'arc formée par l'Australian Bight. Nous quitterons Melbourne sans doute demain soir, mercredi, vers 5 ou 6 heures, et nous devrons entrer à Port Jackson, dans la baie de Sydney, vendredi 6 décembre, dans la matinée. Il paraît, selon le commandant, que nous avons eu la chance très extraordinaire d'échapper au mauvais temps sur la côte australienne. Les albatros nous suivent toujours, mais ils sont déjà moins nombreux. Hier encore, le soleil couchant a laissé un ciel jaune fondu, sous lequel la mer ondulante semblait bleu-noir. Puis les nuances les plus exquises d'or vert ont gagné jusqu'au bleu franc. Mais bientôt de grosses traînées de vapeurs noires ont brouillé tout, tandis que les étoiles australes montaient au haut du ciel. Monsieur Bourges, commandant du Pacifique, va me trouver un boarding house à Sydney et m'offre en tout cas l'hospitalité à son bord. J'aurai donc une ressource en cas d'ennui. Cependant, comme j'ai télégraphié à Cook de Fremantle, j'espère ne pas me heurter à trop de difficultés. À bord du Polynésien, lundi 2 décembre 1901, par le travers de Spencer Gulf. Enfin, je vais peut-être arriver au bout de tout ce que j'ai à te dire encore sur mon séjour à Ceylan. Je me suis arrêtée au Galviara de Candy et à ses vieilles inscriptions cingalaises. Dans tous ces temples, les scènes de l'enfer bouddhiste sont représentées en fresques peintes sur les murs extérieurs, derrière les colonnettes. Les démons de femmes deviennent d'horribles monstres aux couleurs de décomposition verdâtre qui brandissent des tridents et vomissent du feu. Partout, Gautama se présente d'abord sous l'apparence d'un jeune homme riche, bien vêtu, avec de jolies moustaches. Partout, à l'issue de la galerie, il trône en Bouddha sous sa coiffure traditionnelle à Ceylan. Les peintures, plus ou moins récentes, n'offrent aucun intérêt d'art. Il pleuvait bien fort sur le sentier rouge de ce Rock Temple, et les gouttes crépitaient sur les larges feuilles de bananier, quand le petit James Pereira, vêtu de sa robe blanche, ses livres sous le bras, s'est avancé entre les arbres pour m'abriter. Il sortait, m'a-t-il dit, de l'école bouddhiste, mais il était catholique et romain. Ce n'est pas un cas isolé. Partout on retrouve des écoles bouddhistes, faites d'un rectangle de ciment blanc avec des piliers et un toit de bois. À l'intérieur, il y a des bancs et les enfants y apprennent à lire et à écrire le cingalais et l'anglais. L'indulgence du gouvernement pour le bouddhisme a été si grande que la religion à Ceylan fait des adeptes et gagne sur les anciennes conversions portugaises. À Dambulla, le matin de mon départ, Cassim m'a mené à un petit bungalow où se tiennent les prédications bouddhistes. Dans la première salle, une estrade de bois blanc avec des sortes de manteaux d'arlequins rouges décorés de broderies d'or. Au fond, dans un réduit exigu, se tenaient quelques jeunes prêtres en robe jaune. Là aussi était un vieillard à barbe blanche courte, habillé d'une robe blanche. Il m'a montré sur une table, sous une petite case de verre, deux bouddhas de cuivre jaune avec une petite dagoba de cuivre. Puis il me dit avec orgueil, dans un anglais excellent, « J'ai été prêtre catholique et maintenant je me suis converti au bouddhisme. » Sa saleté était extrême et tout le côté droit de sa figure, les lèvres épaisses et écumantes, étaient déformés par la lèpre. Sur quoi Cassim me dit « Stand further off, master !» Cet homme me dit alors « Je vais vous montrer une vraie relique de Bouddha que je porte toujours sur moi et qui me préserve de tous les dangers. Elle m'a été donnée par un vieux prêtre d'Anuradhapura. » Là-dessous, il tire de dessous sa robe un petit paquet de linge blanc qu'il dénoue avec peine. Enveloppement sur enveloppement, d'abord dans de la toile, ensuite dans du papier de soie jaune. Finalement, je vois dans le creux de sa main un petit morceau ovale d'or poli, gros comme une demi-lentille. « Elle est vraie, me dit-il, car si on la jette dans un bol plein d'eau, elle tombe au fond. Mais si on présente au-dessus de l'eau une fleur de Bouddha, la relique monte tout droit du fond de l'eau pour se placer dans le calice de la fleur. » Pendant que j'étais à Kandy, deux Anglais sont partis pour Anuradhapura. Ils étaient étrangement vêtus et portaient leurs cheveux très longs. L'un était poète, l'autre s'était fait bouddhiste et allait se retirer dans un couvent en Birmanie.